jardinière.
Salut tout le monde et bienvenue dans les jardinières. Alors décidément, le seul à ne pas être au courant que le printemps a commencé depuis déjà presque 2 mois, ça semble être le printemps lui-même. On a 1 heure pour vous convaincre qu'on peut aimer jardiner, et ça même avec une météo qui laisse à désirer. Alors quand je dis « on », c'est avec ma super copine jardinière qui elle aussi trépigne de recevoir vos questions. Mylène, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver ce matin. Et oui, 1 heure pour que notre professionnel du jardin vous donne plein de conseils jardinage afin de rendre jaloux tous vos voisins. Pour répondre à vos questions, on a la chance d'accueillir jusqu'à 8h Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Nous sommes le 18 mai et plein de questions vous taraudent en ce moment, ça on en est sûr. Alors quels légumes planter au potager? Comment entretenir cette orchidée, celle de votre anniversaire de mariage qui est en train de dépérir? Toutes vos questions sont traitées avec joie par Jean-Pierre Ribaud.
Des questions auxquelles il peut vous répondre en direct. Pour ça, vous composez dès maintenant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire un SMS en inscrivant le mot « jardin » suivi d'un espace et de votre question. Et vous envoyez le tout au 939. Et sinon, il y a toujours le formulaire présent sur nos sites internet sous l'onglet « Questions aux jardinières ».
Et bien voilà, c'est parti, hein, tout est dit. Les jardinières de ce 18 mai démarrent maintenant.
7h, 8h, les jardinières.
Et on va commencer avec une question qu'on a reçue par formulaire cette semaine. Elle nous vient de Jennifer de Haute-Rive qui nous dit « Ma menthe a des taches blanches semi-transparentes. Qu'est-ce que c'est? Même avec de l'insecticide pour plantes aromatiques, elle développe ce genre de taches, alors du coup j'évite d'en consommer. Que puis-je faire, Jean-Pierre ?»
Oui, bonjour Jennifer. En fait, la menthe que vous avez dans votre plate-bande, elle a juste de l'odium. C'est un champignon qui se développe sur le feuillage. Évidemment, par le printemps qu'on a, qui est plutôt humide, évidemment, ce champignon se développe à merveille. Certainement, si l'emplacement dans lequel est plantée cette menthe favorise ce développement de champignons. Et puis, c'est sûr qu'à l'évidence, l'insecticide que vous utiliserez sur cette menthe ne va rien faire du tout, parce que l'insecticide est vraiment un produit qui va combattre tout ce qui est des ravageurs, mais en tout cas pas des maladies. Ça veut dire qu'il vous faut trouver dans un commerce, chez un horticulteur du coin, ou c'est égal, un produit qui va lutter contre les maladies cryptogamiques, 1, 2, 3, pardon, ce champignon qui se développe. Il faudra aussi attendre une carence de 15 jours à 3 semaines avant de consommer cette menthe, parce que évidemment il restera des résidus, et puis ce n'est pas quelque chose qui est très intéressant à consommer, au contraire, c'est plutôt du nocif. Mais cherchez dans le commerce un produit qui va combattre les champignons, et puis avec 2 traitements, vous devriez arriver à éradiquer le problème, d'autant plus que maintenant, cette période de végétation va être dense, la menthe va se développer à merveille, parce que bien sûr, l'humidité qu'on a eue et les températures qui vont monter, vous voulez arriver à supprimer ce problème.
Je me demandais si elle ne traite rien, les petits champignons sur la menthe, ça donne... c'est pas grave si elle fait un thé par exemple avec?
Oui. Ah, je ne sais pas, bonne question. Je ne pense pas que je ferai un thé avec la menthe qui est gorgée de...
Mieux vaut éviter.
Oui, ça je pense, oui, tout à fait. Puis si elle ne traite pas du tout, je pense qu'elle va quand même continuer de se développer gentiment jusqu'au stade où on aura assez de température dans l'air pour calmer ce champignon qui se développe.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières sont de retour pour répondre à vos questions jusqu'à 8h en compagnie de Jean-Pierre Ribaud. On va parler d'un bonsaï. On m'a offert un bonsaï et cette personne se demande à quelle fréquence l'arroser. Alors Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez aider cette personne?
Oui, bien sûr. Le bonsaï est une plante qui se trouve dans une petite surface de terre, évidemment, un petit pot. Ça dépend de l'emplacement dans lequel il se trouve, aussi au niveau de l'intensité de l'arrosage qu'il faudra lui vouer. Il y a aussi une différence par rapport au fait si c'est un pot plastique ou un pot en terre cuite. On sait que la terre cuite est quelque chose qui est poreux, qui absorbe énormément d'humidité, puis qui va créer une déficience au niveau du substrat terreux dans l'humidité. Alors, je dirais une fois par semaine, en tout cas le bassiner, ça veut dire prendre le bonsaï et puis le mettre carrément dans un récipient d'eau jusqu'à couvrir complètement la surface terreuse pour l'immerger totalement. Ça, on peut le faire pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, comme ça le substrat va vraiment emmagasiner un maximum d'humidité. Et puis après, je dirais 1 à 2 fois par semaine, y faire quelques adjonctions d'humidité. Et puis, simplement ne pas oublier de lui mettre quand même de temps en temps, surtout au printemps, un peu d'engrais liquide, ce qui va faciliter le développement du bonsaï. Alors bien sûr, c'est contradictoire parce qu'on veut le faire pousser, puis après on sait qu'on devra beaucoup le tailler, mais si vous avez une feuille qui est plutôt jaunâtre parce qu'elle ne se développe pas, parce qu'elle est en manque d'éléments nutritifs, c'est pas positif. Donc en tout cas, une fois par semaine, un petit peu d'engrais liquide à l'arrosage, peut-être pas dans la bassine parce que là, il y aura trop de pertes au niveau de l'engrais que vous aurez en surplus dans le récipient. Donc un engrais liquide, et puis une fois qu'il se développera bien, alors évidemment, continuer la taille qui peut se faire tous les 3 semaines, voire tous les mois selon l'espèce de bonsaï qui est là.
Sacré travail.
Oui, ouais, parce que c'est pas facile de s'occuper d'un bonsaï. Je sais, j'ai eu l'expérience magnifique bonsaï ficus.
Il a pas grandi.
Décédé tragiquement.
C'était mal arrosé.
Voilà, c'est sûrement ça. Il a commencé à sécher. Enfin bref, ça m'a rendu extrêmement triste d'en reparler. Je pense à ce bonsaï. Enfin bref, on va passer à une autre question. Elle nous vient d'Eric qui vient tout juste de nous envoyer un SMS. Il a reçu un pommier d'environ 1,60 m de haut. Il aimerait le planter. Le problème, c'est qu'il a environ 30 cm de terre et en dessous, c'est de la marne. Est-ce que ça pourrait quand même jouer?
Alors, pour qu'il se développe aisément, non, ce serait mieux de faire un carottage plus profond au niveau de l'espace dans lequel il sera planté. S'il peut descendre à 70-80 cm pour enlever cette zone de marne qui pourrait faire aussi office de matelas, qui pourrait être une rétention d'eau qui va nuire au développement de ce pommier, c'est pas la bonne solution. Donc, creuser un peu plus large, un peu plus profond, ramener uniquement de la terre végétale, évidemment, en tout cas pas du terreau, pas du compost et puis pas du fumier en dessous. Bonne terre végétale, une bonne plantation, un bon arrosage, et puis après, si vraiment, en mulchie, donc une couverture du sol, là, il peut lui mettre soit du fumier, soit du compost, soit du terreau, enfin, c'est égal. Voilà.
Et là, ça devrait pousser sans problème.
Alors oui, bien sûr. Il faut encore juste qu'il se prémunisse peut-être au niveau du pommier, quand il enlèvera ce pommier du pot. Si les racines elles sont très tournantes autour du pot, parce que c'est un arbre qui aurait été 2-3 ans dans le container, dans le pot donc, il faudrait qu'il coupe sur une épaisseur de 2-3 cm ses racines à 3-4 endroits autour de la motte, ce qui va favoriser le démarrage des racines à l'extérieur et puis éviter qu'elles continuent de tourner en poussant. Parce que si on ne le fait pas, eh bien elles vont continuer dans cette rotation et puis l'arbre il va perdre une bonne partie de sa stabilité dans le temps.
Et c'est une bonne idée de le faire maintenant. Il peut planter son pommier ces jours ou il faut attendre plutôt l'automne?
Non, alors s'il a commandé déjà son pommier et qu'il l'a en livraison avec une plante dans un pot, il peut évidemment le planter. C'est même mieux de le planter assez vite, comme ça il ne va pas souffrir des aléas du temps, des températures dans ce pot. Parce qu'on sait que les pots, c'est la pire des prisons pour les plantes, parce qu'évidemment, elles ont chaud, elles ont soif ou trop d'eau ou je ne sais pas quoi. Tandis qu'une fois qu'elles sont implantées dans le terrain naturel, la stabilité revient et puis le développement est merveilleux.
Les jardinières.
Ce matin, chez les jardinières, on parle beaucoup de menthe. Une question de Jeanne de Kourou. Elle nous dit « J'ai des plates-bandes devant chez moi. L'année dernière, il y avait de la menthe. Et j'aimerais à présent avoir des fleurs. Le problème est qu'il y a de la menthe partout. Si je plante quelques graines de fleurs là au milieu, est-ce qu'elles pousseront ou elles seront étouffées par la menthe? Sinon, que faire pour avoir des fleurs ?» Jean-Pierre.
Bonjour Jeanne. En fait, le problème, il sera que la menthe, elle va étouffer tout ce que vous allez implanter dans cette plate-bande. Parce que la menthe est une plante qui arrive à 25-30 cm quand elle se développe bien. Effectivement, vous avez le problème que quand vous l'avez implantée dans votre massif, vous aurez dû la planter dans un pot. En fait, il aurait fallu un grand pot. Vous enterriez le pot dans le massif et puis après, vous mettiez votre menthe dans ce pot. Comme ça, le pot faisait barrière au niveau des racines traçantes de la menthe. Comme vous ne l'avez pas fait, évidemment, elle a pris large et puis elle a colonisé l'ensemble de votre massif. Alors maintenant, pour se passer de cette menthe dans ce massif, il y a deux solutions données. Une qui est un peu négative, c'est celle du traitement, évidemment. Avec un herbicide total, vous arriveriez à la prendre, un herbicide foliaire, mais dans un massif comme ça, on n'aime pas tellement non plus. Et puis sinon, un bon labourage, un larronnage, et puis ramasser toutes les racines que vous trouverez à la surface. Ce ne sont pas des racines qui vont se trouver en profondeur, ça n'ayez crainte. Elles se trouvent dans les 5-8 premiers centimètres du sol. Et puis vous enlevez toutes ces racines. Un contrôle de la plate-bande les 15 jours qui vont suivre, parce que vous aurez encore des petits bouts de racines qui vont redémarrer. Une fois que vous aurez pu enlever tout ce qui est de repousse de cette menthe, et bien à ce moment-là, vous pourrez repartir avec une nouvelle culture sur ce massif.
Et puis, est-ce qu'il faut faire attention à ces racines de menthe qu'on aura retirées, par exemple, si on les met dans son compost ? Est-ce qu'on verra son compost envahi de menthe ?
Non, alors non, parce que le compost, c'est un élément qui va partir en température au niveau de la fermentation. Et puis, c'est une racine qui se décompose facilement dans la température. Ça, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas de risque de coloniser une autre surface. Par contre, si elle veut garder un pied de menthe dans un coin, alors vraiment, le conseil du pot, il est donné. Comme ça, vous avez toujours votre menthe qui est présente, mais elle est contenue.
Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que si on la met directement en terre, ça a un peu tendance à se propager partout.
Elle envahit tout.
Elle envahit tout. Ouais. Jardin.
Les jardinières.
Et de retour dans les jardinières, Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, est toujours bien installé pour répondre à toutes vos questions jardinage. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Vos questions, vous pouvez les poser en composant le numéro de notre standard téléphonique, le 0901 70 20 20, pour 36 centimes la minute. Mais on lit également vos SMS et vos formulaires. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot jardin au début de votre SMS, laissez un espace, puis tapez votre question et vous envoyez le tout au 939. Et je rappelle que vous avez encore jusqu'à 8 heures pour poser toutes ces questions qui taraudent votre esprit de jardinier amateur.
Et on a reçu justement une question de Lisa. Elle a utilisé le formulaire, un formulaire présent sur nos sites internet. Elle nous dit la question suivante: j'ai un bonsaï pin qui a eu trop chaud l'été passé, il a séché, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il reprenne? Et elle nous remercie évidemment pour la réponse. Jean-Pierre Ribaud, c'est à vous.
Oh, c'est gentil. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Pas grand-chose, le remplacer. Aller en chercher un dans une grande surface pour remplacer ce pin qui a séché. Le problème des conifères, c'est que quand on remarque le dégât du sec, donc qui change de couleur, c'est déjà trop tard pour le récupérer. C'est pas la même chose avec une plante à feuilles. Les bonsaïs qui seraient dans les charmes ou les hêtres feuillus qui ont un négatif au niveau de l'humidité, vous allez le voir tout de suite au niveau du feuillage qui va flétrir, qui va changer de couleur, de texture. Le pin, pas le tuya non plus, même dans les tuyas, enfin tout ce qui est de conifères. Du moment que vous avez du dégât de sec sur un conifère, le fait de le remarquer est déjà trop tard pour le récupérer. Donc, je suis désolé pour vous, il faut en retrouver un petit dans une pépinière. Vous pouvez aussi acheter un petit pin, hein, et puis le confectionner vous-même, le bonsaï. C'est adorable de partir à zéro avec une jeune plante, et puis de confectionner votre bonsaï. Puis après, ça ne coûte pas grand-chose, vous pouvez en prendre 3-4 pour 20 francs, je pense, et puis sur les 3-4, vous aurez vraiment la chance d'en avoir un ou deux des très jolis.
Moi, j'ai une petite question là sur le bonsaï. Pour qu'il reste petit, donc on le taille beaucoup, mais la taille du pot fait aussi.
Alors oui, il faut concentrer la surface terreuse pour qu'il se sente un peu à l'étroit, pour qu'il ne se développe pas trop. Mais il faut quand même qu'il se développe pour arriver à justement l'entretenir, le tailler, et puis qu'il ait une couleur qui soit verdissante.
On parle souvent que les plantes ont besoin de place. Par contre, là, on le coince un peu dans un petit pot. Est-ce que c'est pas méchant ? J'ai pas le bon mot pour cette plante, non ?
Non, bah, si on prend dans les falaises rocheuses les pins qui se développent, qui ont 50 ans, puis qui font toujours 30 cm de haut, il n'est pas plus puni qu'un autre qui est dans votre pot, dans votre salon. Non, il n'y a pas de souci pour ça, je crois pas. Et puis, ce volume de terre, justement, qui est minime par rapport au bonsaï, demande un petit peu d'adjonction d'engrais, ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, c'est mieux d'utiliser un engrais rapide, donc liquide, pour qu'il soit absorbé facilement par la plante.
Et puis Mylène, on a reçu un petit SMS, hein, juste maintenant, de la part de Vincent, hein, on était justement en train de le lire. Vincent qui nous envoie la question suivante: nous habitons à 1000 mètres d'altitude et nous désirons planter de la rhubarbe. Quel est le meilleur moment pour le faire ?
Oui, bonjour Vincent. Quel est le meilleur moment maintenant, sans problème ? Bien sûr, évidemment pas entre novembre et mars quand il fait des moins 40 chez vous. Mais maintenant que le sol est travaillable, vous allez trouver des plantes de rhubarbe en pot, ou vous pouvez faire même une multiplication par division d'un pied de rhubarbe que vous avez chez vous, en prenant la moitié du pied carrément. Non, aucun problème, vous pouvez y aller. Simplement, à la plantation, enlever un peu les parties des feuilles si vous faites une division de plantes, parce que le fait de couper des racines va créer une carence au niveau de l'alimentation de ces feuilles. Donc si les feuilles demandent de l'énergie et puis que les racines n'alimentent pas, la reprise sera plus difficile. Ce n'est pas du tout le cas s'il est en pot. Si votre plant est en pot, vous faites un bon trou, de la bonne terre tout autour, un bon arrosage, puis ça va démarrer.
Quand on habite à 1000 mètres d'altitude, est-ce que justement il y a des choses qu'on ne peut pas du tout planter, ou c'est juste décalé ?
Alors c'est des cales, et évidemment les plantes qui sont sensibles au froid n'ont pas du tout supporté cette altitude-là, mais quant au reste, ça se décale simplement de la mise à fruits ou de la mise à feuilles ou quelque chose comme ça, oui.
Bon, peut-être qu'un figuier...
Ah, c'est déconseillé.
Voilà. Ah, carrément. Ouais, ouais.
Oui.
Ou un citronnier, enfin les plantes du sud, peut-être on les laisse au sud?
Non, mais de toute façon, même chez nous, hein, c'est des plantes qu'il faut hiverner dans des jardins froids, comme on appelle, des espaces couverts où la température ne descend pas en dessous de zéro, parce que sinon, c'est des plantes qui ne sont pas du tout adaptées à notre situation. Alors, un olivier aux franches montagnes, oui, simplement trouver une super serre pour l'hiberner durant l'hiver.
Bah, c'est vrai qu'on essaie tout le temps, hein, de se lancer dans la culture de plantes du sud, mais ça finit souvent sur... Enfin, à moins de s'y connaître extrêmement bien. Mylène, Jean-Pierre, je vous propose de faire une petite pause musicale. Il est 7h41, les gens se réveillent gentiment. Comment, Mylène, est-ce qu'on peut poser les questions ?
Eh bien, toujours trois possibilités. Par téléphone, par exemple, au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez « jardin, un espace, votre question » et vous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet « émission questions aux jardinières ».
Les jardinières.
Les jardinières avec vous encore pendant un bon quart d'heure et on va parler d'un tuyau d'arrivée d'eau. C'est José de la Heute qui a eu un souci avec son tuyau d'arrivée d'eau qui traversait sa pelouse. Le tuyau a dû être remplacé et son gazon ressemble désormais à un terrain vague. Que faire pour retrouver une belle verdure rapidement ?
Oui, bonjour José. En fait, pour retrouver une pelouse plate et correcte, je pense, selon le détail que vous donnez, le mieux est de passer un motoculteur, niveler correctement cette surface en prenant soin de sortir tout ce qui est des grosses racines et puis des cailloux. Vous faites un semis, bien sûr. Il faudrait redonner un petit coup de râteau ou de larron pour mélanger un peu cette semence dans les deux premiers centimètres de la terre, parce que une semence qui est posée bêtement sur le sol ne va pas démarrer correctement. Vous aurez beaucoup de pertes, ce qui va provoquer un semis très clair, éclairci, avec une arrivée de mauvaises herbes indésirables. Donc, enfouissez un peu cette semence avec un coup de larron ou de râteau. Vous donnez un coup de pelle plate pour arriver à compacter un peu cette surface. Et puis, n'oubliez pas d'y mettre un peu d'engrais de pré-semis, ce qui va faciliter le démarrage de votre semence. Et puis, vous devrez retrouver une surface correcte.
Et puis, nous avons reçu un petit SMS de la part de Sylviane. Sylviane qui habite à Soyères. Elle nous dit que ça fait deux fois qu'elle plante de la rhubarbe et elle végète. Elle ne donne presque rien. Est-ce que c'est la terre du jardin qui n'est pas assez riche ? Qu'en pensez-vous, Jean-Pierre Ribaud ?
Oui, Sylviane, bien sûr, oui. En fait, la rhubarbe est une plante qui adore les sols très riches et très profonds, plutôt humides que secs. Alors, je ne sais pas où vous habitez sur Soyères, mais... c'est l'emplacement qui n'est pas du tout l'idéal à votre rhubarbe. Trouvez un endroit plutôt ombragé, mi-ombragé peut-être, où il y a vraiment une bonne épaisseur de terre. Et puis n'ayez pas peur de lui mettre vraiment du compost ou du fumier empaillé durant l'automne pour que les éléments nutritifs descendent au sol, pour que le démarrage du printemps se fasse. Après, vous arrivez à avoir un pied de rhubarbe correct. Ce que la rhubarbe n'aime pas non plus, c'est des déplacements trop réguliers. Ça veut dire, une fois qu'elle est plantée, la rhubarbe va tenir 20-30 ans dans le carré de potager. Plus le pied de rhubarbe sera grand, plus vous aurez une production de branches de rhubarbe intéressantes. Donc une fois qu'elle est mise en place, ne la déplacez plus, surtout si elle se plaît à l'espace. Maintenant, chez vous, le mieux, c'est effectivement de la déplacer puis de trouver justement cet endroit, l'idéal.
Parce que sur Soyères, pardon Mylène, je vous coupe, sur Soyères, c'est vrai qu'on dit que c'est souvent assez ombragé, mais ce n'est pas forcément ça le problème.
Oui, mais peut-être un sol un peu gravillonneux, poreux, et puis pas assez de terre arable, de terre végétale à l'emplacement de la plantation.
Quand on parle de rhubarbe, on dit souvent qu'il faut attendre 2 ans avant de la consommer, mais c'est quand on part d'une graine. Si elle la déplace, est-ce qu'elle doit attendre que la rhubarbe ait... comment dire, repris racine,
oui, alors,
avant de la consommer.
Oui, c'est-à-dire que si elle déplace ses pieds de rhubarbe maintenant, le mieux, ce serait d'enlever carrément les feuilles de ses pieds de rhubarbe pour éviter qu'il y ait une trop forte évaporation de la sève par ses feuilles. Parce qu'évidemment, en la déplaçant, elle va couper des racines. Il y aura de nouveau une déficience au niveau de l'alimentation de ses feuilles qui ne se fera plus. Et puis, ça veut tirer en bas, comme on dit, le pied de rhubarbe. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la plante qui était en pot. Là, elle n'aura pas ce problème. Maintenant, le fait de lui laisser les feuilles sur une nouvelle plantation de rhubarbe, on va développer un maximum le pied mère, parce qu'il ne faut pas oublier que la feuille, c'est l'usine de transformation de la sève hein, au niveau chlorophyllien. Et puis, si vous enlevez systématiquement ces feuilles, automatiquement, le pied il n'arrive pas à se construire de lui-même. Alors, plus vous laisserez de feuilles, plus votre pied de rhubarbe va se mettre en production rapidement, mais il faut compter effectivement 1 année, 2 ans.
On a reçu une autre question de Jean-Jacques de Porrentruy. Il nous dit que la façade de sa maison est recouverte de vignes d'ornement. C'est une vieille maison et la vigne est certainement là depuis un sacré bout de temps. Sa femme, à Jean-Jacques, pense que cette vigne fait entrer les insectes dans la maison. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il s'en débarrasse ou alors, au contraire, ce n'est surtout pas à cause de ça qu'il y a des insectes dans la maison ?
Oui, la réponse, c'est difficile à répondre. Ça dépend un peu du bâti. Si effectivement vous avez un vieux bâti avec des fentes et puis des vieilles pierres et puis des choses comme ça où la plante peut prendre vraiment racine dans ses interstices, peut-être, quoique, pas sûr. Après, si le crépi il est fermé et puis que vous avez une plante grimpante sur vos façades, là n'est pas le problème au niveau de des insectes qui rentrent chez vous. Ça, je pense pas.
Et puis Mylène, vous avez quelqu'un au téléphone, hein, quelqu'un qui a composé le 0970-2020.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est votre prénom?
Sylviane aussi.
Ah ben, c'est la journée des Sylviane. On vous écoute, Sylviane.
Voilà. Alors, on a un souci dans le gazon, il y a des trous, et puis de ces trous sortent des grands, comme des hannetons, je ne sais pas si c'est vraiment des hannetons, mais voilà. Et puis, savoir ce que ça occasionne. Pour le moment, on ne court pas de dégâts, mais savoir si ça en occasionne et puis comment s'en débarrasser.
Oui, bonjour Sylviane.
Bonjour.
Vous êtes sûre que c'est des hannetons et pas des grillons? Parce que à ce moment, le hanneton n'est encore pas très très virulent. Si vous avez des trous et puis que des insectes en sortent, moi je pense que c'est plutôt un problème de grillons.
Des grillons?
Oui.
D'accord. Alors, vous ne savez pas si, parce qu'il y a eu au village plusieurs personnes qui ont eu des gazons avec des ravages, avec des vers blancs.
Tout
voilà.
À fait.
Alors, on ne savait pas si c'était l'animal qui donnait ces vers blancs. Enfin, voilà, s'il y avait un lien entre deux.
Ah, pas d'accord. Du tout. Ah non, okay. Pas du tout. Le grillon, il est peut-être un peu désagréable parce qu'il fait un petit trou et puis il ronge l'herbe tout autour, mais ça ne fait pas des grands, grands trous dans votre pelouse. D'ailleurs, si vous lui mettiez un peu d'engrais à votre pelouse, puis vous tondiez un peu plus haut, le grillon il serait un peu dérangé parce qu'il aime vraiment les espaces secs, pas très humides. Donc si votre pelouse est tondue un peu plus élevée avec un apport d'engrais ou ça va justement favoriser le tallage de votre graminée, le grillon vous se trouve un peu dérangé puis pourrait se délocaliser. Mais il ne peut pas causer de dégâts particuliers par rapport à cette petite nuisance de ces trous que vous avez. Pour les vers blancs, oui, pour les dégâts de vers blancs.
On faisait un peu le lien, justement, alors non, c'est pas du tout ça.
Pas du tout, non, pas du tout. Puis c'est vrai qu'au niveau des vers blancs, alors on a eu énormément de dégâts l'année passée, c'était une année où il a été très virulent. Faut savoir que maintenant, bien sûr, ces pelouses, il faudrait les ressemer, donc avec une clarification, un apport de semences et d'engrais. Le hanneton qui a occasionné les dégâts l'année passée va s'évaporer cette année dans l'atmosphère, enfin il va devenir adulte et puis s'envoler. On n'aura plus les dégâts cette année qu'on a eu l'année passée, c'est l'évidence.
Ok. Bon, mais je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end.
Merci Sylviane. Merci d'avoir appelé. Bonne journée.
Je vous en prie. Au revoir.
Et oui, pour poser votre question, c'est encore le moment. Il vous reste quelques petites minutes. 0970-2020, comme vient de le faire Sylviane. Mais on vient de recevoir un SMS au 939. Jean-Pierre Ribaud, il est pour vous, évidemment. C'est un sujet qui concerne les pelouses. Ma pelouse est envahie par les fourmis. Comment est-ce que la personne qui nous écrit peut les éradiquer? C'est fourmis. Hein,
c'est fourmis, c'est un ton. C'est de nouveau le même problème par rapport au grillon. La fourmi, c'est un animal qui se développe vraiment dans les espaces qui sont plutôt séchards. Donc, je pense qu'avec un apport d'engrais de nouveau et puis une tonte un peu plus élevée, vous devriez arriver à les déstabiliser. Après, les éradiquer complètement, je ne pense pas que vous arriverez. Je ne sais pas exactement quelle est la fourmi que vous avez, si c'est les rouges, si c'est les noirs. On les trouve certainement, évidemment, sur des surfaces qui sont plutôt séchardes. Donc, tondez plus haut votre pelouse avec un peu d'engrais pour qu'elle se mette à pousser et puis taler pour densifier le sol. À cette humidité, elle va être dérangée, puis vous devrez en voir partir une bonne partie.
Parce que le problème fondamental avec une fourmi, bon, si elle est rouge, elle pique,
oui.
mais sinon
Il n'en est pas, si ce n'est que c'est dérangeant des fois d'avoir ces petites bêtes qui se baladent sur les dallages et autres. Mais après, vraiment, dans une pelouse, je ne pense pas que ça puisse poser vraiment problème. Je ne pense pas.
Ouais, sauf si on s'étend dans la pelouse et puis qu'une fois, on est envahi de fourmis. C'est surtout ça.
À l'évidence.
Et ouais. On a reçu une autre question, on a encore le temps. Michel Decouvet qui nous dit que le tronc d'un de ces vieux pommiers est infesté par un champignon type langue de bœuf. Il aimerait l'éradiquer. Alors, c'est quoi déjà un champignon type langue de bœuf, Jean-Pierre?
Oui, c'est un champignon qui pousse sur tronc, qui se nourrit du bois sec en décomposition dans le tronc. En fait, c'est signe que votre pommier n'est pas de première fraîcheur. Il a certainement une plaie ou une taille qui a été occasionnée dans le temps. Et puis, à l'intérieur de ce bois, du tronc, donc, vous avez le bois, la structure porteuse qui se décompose. Comment faire pour l'éradiquer? Ce sera difficile parce que d'aller gratter cette structure, le bois en fait, qui est la partie osseuse, qu'on peut appeler comme ça, du végétal, vous voulez l'affaiblir et puis vous voulez quand même pas supprimer le problème parce que le champignon va quand même reprendre de plus belle derrière. Le mieux, c'est de l'enlever au fur et à mesure qu'il se développe. C'est ce qui peut être le mieux par rapport à votre pommier. C'est pas le champignon qui va vous faire périr votre pommier. C'est le pommier lui-même qui vieillit, qui produit cette chance à ce champignon de se développer. Mais en tous les cas, pas le champignon qui risque quelque chose au niveau du pommier.
Mais ça peut être le champignon qui finalement tue le pommier.
Non, pas du tout,
pas
justement.
Du tout.
Non, okay. Non, le champignon.
Ah, je pensais que oui.
Ouais. Non, il profite en fait d'une décomposition du bois, de l'élément. Il profite que de ça, mais il ne peut pas faire périr le pommier.
Mylène, on a encore cette petite question générale oui. à poser.
Oui, on arrive gentiment à 8h, mais avant de se quitter, Jean-Pierre, notre question traditionnelle. Nous sommes le 18 mai, les températures ne sont pas ce qu'elles devraient être, enfin ce qu'on a l'habitude de voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce week-end, dans le jardin?
Oh, dans le jardin, je ne sais pas, parce qu'il va pleuvoir et puis c'est humide et frais, mais ce qui peut se faire en tout cas, c'est la préparation des caissettes maintenant, parce que les saintes glaces sont derrière, donc tout ce qui est des plantes annuelles, bisannuelles, on peut les sortir, on peut les implanter, on peut aussi effectivement, s'il se met un petit rayon de soleil cet après-midi, alors commencer les plates-bandes, commencer les potagers, planter ce qui est des plantons. En fait, il y a tout à faire en ce moment dans l'aménagement paysager, si ce n'est que peut-être pas des tailles, et puis... Mais tout est à réaliser.
Et donc, selon vous, les saintes glaces, c'est terminé. Là, ils ne risquent plus de geler.
Ah, ils ne risquent plus.
Vous n'êtes pas monsieur météo, j'imagine.
Non, je ne peux pas vous le garantir non plus. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, on avait eu des dégâts de tuyas autour du 20-25 mai, parce qu'on avait eu un moins 3, moins 4. Les tuyas s'étaient développés, étaient partis en sève, et puis la sève avait éclaté les vaisseaux. On avait eu des gros dégâts sur des haies de tuyas par le froid du 20 mai. Cette année, je ne peux pas vous renseigner.
On verra ça, l'avenir nous le dira, en tout cas là il est bientôt 8h. L'heure de gentiment se dire au revoir, sans oublier de vous remercier chaleureusement Jean-Pierre Ribaud. Ah, je suis sûre qu'on ne vous l'avait jamais faite celle-là.
Non.
Allez, ben voilà, merci d'avoir répondu à toutes ces questions des auditeurs, on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.
Pareillement, merci à vous.
Et puis bien sûr, on revient samedi prochain pour un nouveau rendez-vous jardinage. Nous serons accompagnés de Fabrice Rondet, notre paysagiste à Port-en-Truy. Vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà les poser pour samedi prochain par SMS au 939 ou grâce au formulaire. Allez, bon week-end et à samedi prochain.
Et bon week-end.
7h, 8h.